Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Bonsoir. Les carnets du soir vous proposent en première partie « Séjour d'un pèlerin en France ». Il s'agit de lieux de pèlerinage dans la ville de Paris et je me suis rendu au Mont-Saint-Michel. Alors, nous sommes arrivés au Mont-Saint-Michel. Tellement de monde, de tourisme. Les gens, je pense, viennent en touristes d'abord. Quelques-uns vont se rendre jusqu'au sommet en touristes et en pèlerins. Vous avez les deux. Alors, nous avons monté le Mont-Saint-Michel. C'est quand même tout un exercice. Moi, j'ai pensé à mes montées du Mont Sinaï. Je suis monté au Mont Sinaï 3 fois dans ma vie. La dernière fois, c'était la dernière. Donc, il faut être en forme. Il faut être en forme pour se rendre jusqu'au sommet. Alors, est-ce que je suis en forme? Je suis en forme, je crois, pour être monté jusque-là. Et on cherche parce qu'on nous avait donné de bonnes indications. Tout le monde ne peut pas dépasser une certaine frontière où il y a un chemin, il y a des chemins qui se divisent à un moment donné. Alors, il faut passer de tel côté parce qu'il y a la sécurité. Ici, on appelle cela vigie pirate. Vous imaginez? Nous sommes dans un territoire de vigie pirate. Depuis les attentats, ces lieux, comme plusieurs lieux dans le monde, sont sous haute surveillance dans le monde. Alors nous sommes contrôlés. Alors nous avons tel parcours à faire, nous sommes regardés, mais ça se fait de manière bienveillante. Nous sommes accueillis, non pas à l'hôtellerie. Il existe une hôtellerie qui est en bas, et qui accueille les pèlerins qui veulent venir. Cette hôtellerie, elle est servi par les moines et les moniales, mais pour demeurer avec la communauté, donc la fraternité monastique de Jérusalem, eh bien, il a fallu avoir beaucoup de doigté et attendre et demander la permission. Et lorsque nous avons expliqué le projet que nous avions lié à Radio Galilée, une radio du Québec, alors le frère hôtelier devait demander au chapitre, donc un chapitre, c'est une réunion des moines à qui on va demander leur opinion. Parce que nous sommes des étrangers, nous sommes prêtres, nous sommes des étrangers, nous avons un projet particulier, et donc ça doit passer au chapitre. Alors le chapitre a décidé que oui, ils allaient nous accueillir. Donc, nous sommes arrivés et quelqu'un nous a ouvert. Ce n'était pas le frère hôtelier, mais un autre qui savait que nous allions arriver aujourd'hui. D'ailleurs, nous avions fait un appel, tout au moins, parce que par courrier, courriel, tout cela, on n'y arrive pas toujours. Mais par le téléphone, répondeur, s'il vous plaît, on a pu laisser quelque chose d'important pour dire « nous arrivons ». Alors, ils ont pu, à ce moment-là, nous envoyer des informations pour nous dire, vous passez à gauche, à droite, vous montez, vous vous rendez jusque-là, vous allez avoir de la sécurité. Bon, alors, nous avions tous les éléments pour nous rendre. Donc, le frère qui nous accueille, très bienveillant, un bel accueil, d'une grande bienveillance, d'une fraternité, et tout de suite, nous entrons dans cette forteresse, c'est vraiment le terme, c'est une forteresse. Nous vivons dans, comme dans des tours. Et là, il va nous montrer nos cellules. Ce sont des moines. Ce sont des moines qui louent les espaces sur le Mont Saint-Michel. Parce que le Mont Saint-Michel appartient à l'État. C'est l'État qui s'occupe du Mont Saint-Michel. Il y a des travaux dans la grande église abbatiale. Et c'est sous la responsabilité de l'État. Et le frère va nous dire, heureusement, ce serait impossible d'être ici. Autrement, personne ne pourrait avoir les moyens de subvenir aux travaux qui se font ici de manière continuelle. Il m'a dit, chaque année, il y a des travaux pour la restauration du Mont Saint-Michel et de cette église abbatiale qui est absolument magnifique. Et ils sont en location, il nous a dit, nous payons notre location et nous vivons ici, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes chez eux, chez les autres. Alors c'est une conscience importante parce que d'un côté ils sont là au service de la mission de ce Mont Saint-Michel, de l'Église, ils ont une liturgie à laquelle les gens peuvent participer, c'est une belle liturgie. Donc vous avez d'un côté les moniales, d'un côté les moines, et ensemble, ils assurent la liturgie des heures, comme on dit, les psaumes, les laudes, bon, l'Eucharistie, les autres prières, les vêpres. Nous avons assisté aux vêpres hier soir. Un bel accueil, et là, il nous montre les cellules. Nous sommes au Moyen-Âge. Imaginez-vous un château du Moyen-Âge, et nous sommes dans des tourelles, et les escaliers sont en colimaçon. Alors moi, je regarde mes pieds, vous pouvez être sûr, parfois je me suis cogné deux fois la tête, mais je regarde mes pieds. Je me dis, bon, la tête c'est important, mais les pieds sont les pères, la tête va souffrir. Donc je regarde mes pieds en colimaçon, tout cela, et là, ils nous ont déjà désigné deux cellules. Donc on arrive à la première cellule, donc c'est mon nom, le père Denis, et le collègue ce sera autre chose. Et là, je m'aperçois que à l'entrée de ma cellule, il y a encore plusieurs marches pour m'y rendre, et il faudra en ressortir également. Là j'ai une hésitation, parce que je me fie à mes pieds, mais je me fie un peu moins à ma tête. Alors, c'est déjà un problème qui s'annonce. Il faut voir l'autre cellule qui a été désignée à mon collègue. Alors, nous montons l'escalier en colimaçon, et là, nous arrivons dans l'autre cellule, qui est celle de mon collègue, et là, tiens, ce n'est pas la même entrée, c'est une entrée de deux marches, beaucoup plus confortable et sécuritaire. Comme la personne qui est avec moi est plus agile et un peu plus jeune, donc c'est pas long que dans le regard, on se rend compte qu'il y aura un changement de cellule. On l'exprime au moine qui est avec nous, il n'y a aucune difficulté à changer le nom des personnes inscrites sur les portes. C'est ce qui se fera. Je remercie mon collègue parce que c'est une question de sécurité aussi. Alors, je ne veux pas tomber, c'est simple. Donc, c'est extrêmement... ça pourrait être périlleux. Donc, la sécurité est importante et je regarde toujours mes pieds, je vous le dis. Je regarde toujours les pieds pour savoir où je vais marcher. Parce que je vis dans une tour du Moyen-Âge. Et ce n'est pas habituel. C'est une cellule très sobre. Je vous explique un peu mon lit. On regarde toujours le lit. Alors, donc, le lit, c'est une planche, deux tréteaux, un matelas, un oreiller, avec des draps de laine assez épais, pas des draps, mais une couverture plutôt, de laine assez épaisse. Et ça, c'est pour le lit. Ensuite, il y a un petit bureau. Il y a quand même un évier, une fenêtre dans la tourelle où je suis, de laquelle je vois la mer, de laquelle, et si je m'avance un peu, je vois les maisons qui sont en dessous. Je vois l'église du sanctuaire, il y a un sanctuaire, je vois l'église du sanctuaire. Et le reste, c'est très simple. Il y a deux chaises et c'est à peu près tout. Une armoire pour mettre les choses. Alors c'est monastique, c'est une cellule très simple, mais qui convient. Pour, là vous vous posez la question, où se trouvent les toilettes ? Où est la douche, etc. Eh bien, elle n'est pas dans la chambre, c'est pas possible. Alors, c'est là qu'il faut être aussi prudent et savoir si on monte ou si on descend. Ça, j'ai eu beaucoup de difficultés hier à conscientiser que je dois monter ou descendre. Je me disais, est-ce que je monte ou je descends ? Alors là, je me suis aperçu que je dois descendre. Donc, je descends. Peut-être quelques marches, peut-être un étage et demi. Et là, on arrive sur un palier, un corridor où se trouve, quand même à quelques pas, faut marcher, se trouvent les douches et les toilettes. Ça, c'est en dehors. Donc, si je dois me lever la nuit, vous imaginez, je dois être extrêmement prudent parce que, bon, je ne suis pas très éveillé, mais je dois. Mais ça ne s'est pas passé, heureusement. Je n'ai pas eu à m'éveiller cette nuit pour me rendre aux toilettes. Ce sont des choses concrètes.
Les carnets du soir se poursuivent en ouvrant un autre volet. Vous entendrez l'intégralité des 13 monologues que j'ai écrits sur des personnages fictifs ayant vécu autour de 60 ans après Jésus-Christ. Chaque personnage est en lien avec les évangiles ou lettres de saint Paul. Dans le rôle d'une amie de Marie de Magdala, Lise Castonguay, sous la direction de Jacques Leblanc.
La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte, Denis Veilleux. Aujourd'hui, une amie de Marie de Magdala. Narration, Lise Castonguay.
De nouveaux parchemins circulent un peu partout. C'est vrai. Il y a des lettres, m'a-t-on dit, mais aussi un résumé des gestes et paroles du rabbi Jésus de Nazareth. Cela me rappelle tant de choses dont j'ai goûté la lumière. Ma grande amie a quitté notre monde depuis longtemps, mais j'ai jamais oublié ce qu'il nous a été donné de vivre ensemble à Jérusalem, un beau matin de printemps. Les odeurs, la jeunesse, nos pas qui couraient plus vite que nos pensées, comme c'était beau ce temps où tout s'est mis à basculer vers ce royaume qui me comble toujours. J'étais partie avant le lever du soleil avec Marie de Magdala. Je n'avais pu me déplacer ce funeste vendredi pour pleurer aux côtés de mon ami la mort du rabbi de Nazareth, que l'on venait de crucifier. Mais le soir même, elle s'est réfugiée chez moi dans la ville haute. Elle était si défaite, si abattue par cette horrible histoire qui avait éclaté en pleine Pâque. Anéantir comme ça une vie en quelques heures, une machination des ténèbres. Elle m'a tout raconté. Nous avions tout le temps du Shabbat pour nous consoler et préparer ensemble les aromates, afin de donner à son ami une sépulture digne de tout juif. Heureusement, un homme de classe avait offert son propre tombeau. Mais une question se posait à nous et demeurait sans réponse à mesure que le temps avançait. Qui donc nous roulera la pierre devant? Ce n'est pas avec un caillou que l'on ferme un tombeau. Le matin venu, moi j'ai dit à Marie de Magdala, « Ne t'inquiète pas, tu vois tout ce que le Tout-Puissant a fait pour toi. Il saura bien nous tirer encore d'affaire. » Mon amie était pressée. Elle craignait que le corps ne soit trop abîmé. Elle avait vu l'état dans lequel il était lorsqu'on l'avait enveloppé à toute vitesse dans de grandes bandelettes. Pour ça, elle savait y faire, cette Marie. Elle avait le sens du devoir et voyait au détail. On aurait dit que nos soucis d'assurer une digne sépulture aux défunts, soucis qui en étaient vraiment, nous empêchaient de céder à la tristesse et de nous effondrer comme la veille. Toute la soirée du vendredi avait été atroce. Elle n'avait cessé de pleurer, n'avait rien mangé, ni voulu boire, rien. Elle m'avait fait pitié. Non seulement Marie était bouleversée par ce qui était arrivé, mais elle ne m'a pas caché à être amèrement déçue de ses compagnons, qui auraient dû faire face. Mais non, tous s'étaient volatilisés comme des feuilles au vent et se cachaient dans Jérusalem. Elle savait où. Puis, il a bien fallu dormir, je tenais plus debout. Elle s'est laissée convaincre et s'est étendue comme une morte. C'est à l'épouse, la bien-aimée ayant perdu son bien-aimé, qu'elle ressemblait. Je me suis rappelée à ce moment-là notre livre saint du Cantique de Salomon. On garde ces repères-là quand il ne reste plus aucune clarté pour guider son cœur. Sombre dehors, sombre dedans, je la regardais et je prononçais à voix basse les paroles du cantique. Je suis noire, mais je suis belle. Ces paroles-là étaient pour elle, pour la femme qu'elle avait libérée. J'ai connu Marie de Magdala pendant cette période de sa vie où elle a vécu au bon plaisir des riches qui l'entretenaient. Il ne faut pas croire que sa situation était rose. Pas du tout. Elle venait régulièrement me raconter ses misères. Une vie pareille, ça vous défigure un miroir. Des jours, elle se jugeait belle et comblée. D'autres, elle angoissait jusqu'à tressaillir de la moindre ride qui aurait pu s'installer sur son visage. Elle avait la manie de traîner partout son miroir. En vérité, son obsession de beauté ne faisait que la rendre malade. Un jour, il m'est arrivé de le lui subtiliser. Je n'ose pas dire de lui dérober une fois pour toutes. Elle a retourné sans dessus-dessous sa maison avant de venir hurler son désarroi chez moi. Je n'ai pas été plus avancée pour la délivrer de son idolâtrie. Tout de même, je lui rappelais souvent que de tous bords, tous côtés, le Tout-Puissant nous mettait en garde contre les idoles. Mais à l'entendre, son miroir était un objet personnel utilitaire sans plus. Son argument me laissait toujours sans réponse. Mais ce jour où elle m'est arrivée comme une folle, l'idée a fait son chemin. Et je lui ai dit que ce qu'elle appelait un bien personnel utilitaire avait emporté avec lui la personne qui s'en servait, c'est-à-dire elle-même. Elle était dominée par l'image qu'il lui renvoyait. Elle est restée bouche bée. C'est là que je lui ai restitué son idole. Elle s'en est saisie avec une telle force que j'en ai été à mon tour remuée. Comment peut-on s'attacher à ce point à soi-même? Cela me dépassait. Sur le seuil de la porte, au moment de prendre congé, Marie m'a laissé savoir sur un ton aussi mystérieux que résolu, « J'en aurai besoin, vu que je remonte à Magdala. » Mais avant, Je désire faire un petit détour par Capharnaüm. Ça m'intrigue, l'histoire du charpentier qui fait le prophète. Elle est partie sur ces paroles, et je me suis sentie bouleversée jusqu'au cœur. Comment, elle, qui prend tout son temps pour elle, et encore elle, et qui se donne à tous ces hommes, peut-elle avoir en tête des pensées comme celle-là? Pourtant, je la savais capable de ne pas être que légère. Il lui arrivait souvent de sortir de ces phrases énigmatiques à vous couper le souffle. Sa dernière, je l'avais encore en tête. « Tu sais, Sarah, quand je pleure, j'ai soif. » Je ne comprenais toujours pas encore le sens de son mot « soif », mais je sentais que cette image cachait une quête. Le fameux matin où nous nous sommes rendus au tombeau, elle m'a demandé de nouveau qui donc nous roulera la pierre que les soldats ont placée devant le tombeau. Je n'ai rien répondu. Il me semblait inutile de commencer la journée en retournant la même question que nous nous étions tant de fois posée la veille. Mais je ne savais toujours pas comment nous allions nous y prendre. Nous avons marché très vite, comme si nous avions un rendez-vous avec l'empereur. Au moment de notre départ, Marie m'a confié le transport des aromates, sous prétexte qu'elle était trop nerveuse et qu'elle risquait d'échapper les petites fioles précieuses. Elle s'était chargée des bandelettes et du suaire. J'ignore où elle avait appris à ensevelir les morts. C'était une nouveauté pour moi, je m'en remettais à elle. En chemin, progressivement, son pas est devenu plus rapide que le mien, et elle m'a devancé. De sorte qu'à un certain moment, elle s'est arrêtée pour me crier. « Mais c'est ouvert !» J'ai d'abord cru qu'elle me parlait du sentier, et comme ce dernier était complètement libre, je n'ai pas compris sa réaction. Quand je l'ai finalement rejointe, elle était devant la tombe de son amie. Elle avait l'air d'une gamine qui aurait été piégée à un jeu. Après un moment d'hésitation, elle s'est penchée un peu, mais la voyant frissonner, j'ai déduit qu'elle avait aussi peur que moi. J'ai pris sur moi de maîtriser l'émoi qui m'avait gagné, et je me suis hasardée à lui demander si elle était sûre de l'endroit. Entre-temps, elle s'était mise à pleurer, et elle m'a fait un simple signe affirmatif de la tête. Je ne l'avais jamais vue s'y effondrer. Pendant de longs moments, elle est restée comme accrochée à ses bandelettes et aux sphères et a continué de pleurer en silence. Je ne sais pas ce qui m'a pris au juste, était-ce la nervosité, mais soudain j'ai haussé le ton. Eh bien, pour la peine qu'on s'est donnée, c'est réussi. Il n'y avait pas de pierre à rouler devant le tombeau. C'est simple, on a dû oublier de le fermer. Elle n'a pas réagi. Elle paraissait prise par quelque chose. C'était un homme vigoureux, dans la trentaine, qui venait vers nous. Avec ce qui venait de se passer, ma peur a décuplé. Il n'était pas question pour moi d'engager un dialogue avec un inconnu. Ignorant mes appréhensions, Marie s'est levée et est allée à sa rencontre. Je redoutais la suite, alors je me suis éloignée tout en les regardant en coin. Soudain, à ma stupéfaction, Marie s'est agenouillée. « Elle est folle !» me suis-je dit. L'homme a levé les mains vers le ciel, lui a dit quelques mots et a continué son chemin. Elle est restée un certain temps toute figée, puis elle m'a cherché des yeux. Je suis revenue vers elle en lui disant ce que je pensais. Après ces pendaisons à Jérusalem, je n'aimais pas que nous soyons mêlés à quelque histoire. Sans compter que des individus malfaisants avaient coutume de vagabonder partout au moment de la Pâque. Quand je fus pour de bon à sa portée, il y avait de la lumière sur tout son visage. ce qu'elle était belle. Ma confusion devait se lire dans mes yeux, car elle a voulu s'expliquer. Sarah, c'était lui. Impatiente, je l'ai apostrophée un peu sèchement. Qui, lui ? Lui, m'a-t-elle répété, comme si ça allait de soi. Sa réponse n'a fait que grandir mon mécontentement, même si je convenais que quelque chose d'étrange venait de se passer. J'ai cherché à la raisonner. J'ai vu, comme toi, un jardinier ou un gardien, pas un iota de plus. Elle est revenue à la charge. Mais non, je l'ai vu. C'était Jésus. Il m'a appelé par mon nom. Cette voix et cette manière de me nommer, personne au monde ne peut m'en faire douter. C'était lui. Cette fois, ça en était trop pour moi. Marie, lui ai-je dit, ça ne va pas. Un inconnu qui passe dans un jardin prononce ton nom à deux pas d'une tombe et tu déclares que c'est lui. Mon ami ne s'est pas démonté. Il faut me croire, Sarah. Non seulement il m'a nommé, mais il m'a dit quelque chose qu'aucun inconnu n'aurait pu me dire. « Quoi ? » ai-je répliqué. Au lieu de se vexer de mon attitude, avec beaucoup de douceur, Marie m'a dévoilé mot pour mot le message de l'inconnu. « Ne me touche pas. Je monte vers mon père. Va dire à mes frères que je les verrai en Galilée. » Ça, Sarah, personne ne pouvait savoir. Là, j'ai été ébranlée. Ce serait donc lui? Tu en es sûre? Cette fois, je suis restée sans réponse de mon amie. Marie avait tourné les talons, l'air de savoir où elle allait. Sans perdre de temps, je l'ai suivie à la course et nous sommes arrivés tout essoufflés chez ses amis. Pour un accueil, ça a été tout un accueil. Ils ont mis un temps fou à nous ouvrir, et pas besoin d'explication pour comprendre que, sur le coup, ils n'ont rien cru à ce que Marie leur a raconté. Je me mets à leur place. Deux femmes devant eux, l'une portant le suaire et les bandelettes, l'autre les fioles d'aromates. On ne se rend pas loin avec une telle vue des choses. Personne ne bougeait. Tout à coup, deux d'entre eux se sont levés et ont pris le chemin qui menait à la tombe. Bientôt, tout ce beau monde courait. Voilà un beau moment dans ma vie. Cet après-midi, je suis convoquée à me rendre avec d'autres en cachette près du Yabok. On nous lira le fameux parchemin des faits et paroles de Jésus. Quand je pense à Marie de Magdala, j'entends toujours le cantique de Salomon. Il me semble qu'elle, plus que quiconque, a compris que l'amour était fort comme la mort et qu'il ne s'achetait pas.
Vous venez d'entendre Une amie de Marie de Magdala, la quatrième d'une série de 13 émissions intitulée La rose bleue, 60 ans après Jésus-Christ, 13 pétales. Texte et musique, Denis Veilleux. Narration, Lise Castonguet. À la technique, Yannick Caron. Réalisation, Jacques Leblanc.